grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chaîne Nibiru
halud mauni
chaîne Nibiru sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue. Le virus Ebola fait encore parler de lui au Mali. Troisième cas, troisième décès. Hier, un infirmier de la polyclinique Pasteur est décédé des suites de la fièvre Ebola. Il a été en contact avec un malade qui a rendu l'âme il y a 2 semaines. Dans la même clinique, un nouveau cas qui vient planer le doute et semer la piscose chez les Maliens. Alors, comment les faits se sont déroulés? Quels peuvent être les risques de nouvelles contaminations? Et comment l'État s'organise pour faire face à ce nouveau cas? Nous poserons ces questions tout à l'heure à Dr Arwata Ben Baba, président de la polyclinique Pasteur, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, chef de service du laboratoire CHU Gabriel Touré, et Issa Zeroua, parent de personnes mises en quarantaine. Nous avions invité le gouvernement, mais faute de calendrier, on n'a pas pu avoir d'invité. Moi, je suis Sira Batili pour l'animation et Noum Djiré assure la technique. Studio Tamani. Le virus Ebola, ce mal du siècle qui n'a jusque-là pas de traitement, la prévention est la seule voie de sortie pour échapper à cette épidémie. Après 3 semaines que le cas de la fièvre décédée à Kaï a été révélé, voilà 2 autres cas de décès du virus Ebola, cette fois-ci à Bamako. Beaucoup de versions qu'on entend à travers la ville. Nous sommes avec le président de la clinique Pasteur, en la personne de Dr Arwata Ben Baba. Docteur, vous êtes cardiologue. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique Pasteur?
Bonsoir. D'abord, merci de nous donner l'occasion sur votre plateau d'expliquer exactement les faits et comment ça s'est passé depuis le départ. Donc, effectivement, nous avons eu le samedi 8 novembre un de nos infirmiers stagiaires qui s'est présenté avec des signes du virus Ebola. Donc fièvre, diarrhée, vomissement et épistaxis, saignement du nez. Donc nous avons immédiatement, on l'a immédiatement isolé dans une chambre, seul, sous contrôle médical. Il se trouve que ce patient était sur une liste de suivi, parce que cette liste de suivi a été établie quand nous avons su que le malade guinéen qui est décédé 2 semaines avant, était suspect d'Ebola. À partir du moment où nous avons eu l'information par le ministère de la Santé que ce cas guinéen était suspect, nous n'avons jamais eu la preuve biologique, mais c'était...
Vous ne l'aviez pas détecté au niveau de la clinique?
Non. Je vais revenir sur l'admission de ce monsieur. Donc, je commence par le médecin, l'infirmier, et qui je remonte sur les événements qui ont poussé cet infirmier à être infecté. Donc, la détection du virus Ebola dans les structures sanitaires, c'est très important de le rappeler, c'est un système, c'est un dépistage qui ne se fait pas dans toutes les cliniques. Il y a un seul laboratoire à Bamako qui permet de faire ce dépistage. Je pense que le docteur Maïga va nous confirmer ça. Quand on a reçu le Guinéen le 25 octobre, à 22h, en consultation aux urgences de l'hôpital Clinique Pasteur, la clinique Pasteur. À 22h, le médecin de garde qui gère la clinique au moment des gardes, qui est responsable médical de la clinique, a reçu ce patient qui est venu en voiture ordinaire, accompagné de sa famille. Il a été admis aux urgences dans un état respiratoire aigu, une pneumopathie grave. Donc le médecin l'a reçu. Il l'a interné, il l'a hospitalisé et il s'est acharné à régler les problèmes respiratoires que le patient posait. En respectant nos protocoles internes, parce que nous, à la clinique, nous avons des protocoles, des manuels de procédure qui font que, quelle que soit l'origine du malade, quel que soit le type de malade, le médecin se protège, les infirmiers se protègent. Maintenant, je vais juste vous rappeler les faits. Mais une enquête interne, comme l'a dit le ministère de la Santé, est en cours. Et c'est cette enquête qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il y a eu faute, où est-ce qu'il y a eu erreur. Pour que on puisse, même pas nous, que les autres cliniques et tout le monde s'inspire et pour qu'on évite que les choses se répètent. Je vous rappelle, même dans les cliniques à Madrid, aux États-Unis, des infirmiers se sont infectés en essayant de toucher ou de traiter des malades. Il y a tout un tas de procédures.
Bon. Est-ce que la méconnaissance du fait que vous ne saviez pas que le patient guinéen souffrait d'Ebola n'est-il pas à l'origine?
Absolument. Le docteur s'est acharné à sauver le malade. Il a perdu peut-être du temps avant de penser à chercher l'origine épidémiologique et voir qu'est-ce qu'il fallait déclencher la procédure de test et appeler les services compétents de Bamako, ceux qui sont chargés de faire du dépistage, de venir le faire. Mais ça n'a pas été fait. Quand le malade est décédé, le lundi matin, donc il rentrait samedi soir, dimanche en réanimation, on essayait de le sauver, lundi il est décédé. C'est après son décès que le ministère, la Direction nationale de santé, nous a avisé qu'ils ont eu des informations comme quoi ce patient a eu dans sa famille en Guinée des cas Ebola.
On va y revenir tout à l'heure, juste le temps de faire réagir les autres. Alors, docteur Al-Mustapha, vous êtes virologue spécialiste de la question. Une nouvelle contamination, comment peut-on l'expliquer?
Merci beaucoup. Je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Et c'est un plaisir de revenir dans ce studio pour reparler de Ebola encore. Et alors, cette nouvelle contamination, si on fait un peu l'historique, on l'avait dit il y a quelques mois, qu'en réalité, aujourd'hui, tous les pays frontaliers de ces pays en zone d'endémie ne sont pas à l'abri. Pourquoi ils ne sont pas à l'abri? Parce qu'il y a beaucoup de nos coutumes, ça c'est un. Deuxièmement, il y a nos frontières qui sont poreuses. Et troisièmement, quand ça va arriver, et malheureusement, ce n'est pas seulement le Mali, c'est presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a des systèmes de santé qui sont fragiles. Ces systèmes de santé sont fragiles du fait que les mesures de protection ne sont pas adéquates. Donc, c'est, en tant que spécialiste de la question, ce n'est pas une surprise pour moi qu'il y ait un nouveau cas Ebola.
Alors, qu'est-ce qu'il faut craindre avec ces nouveaux cas?
La seule chose qu'il faut craindre, effectivement, c'est de pouvoir maîtriser tous les contacts de ce malade-là. Non seulement les contacts de tous les malades, ce n'est pas seulement un malade, tous les malades et toutes. Il faut pouvoir retracer les circuits de ces malades-là et pouvoir les mettre en quarantaine. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler de la quarantaine aussi.
Oui, bien sûr. Voilà. Ça, y a dans un
c'est vraiment c'est ça le système. Et de pouvoir très rapidement pouvoir diagnostiquer rapidement les cas et faire la prise en charge. Aujourd'hui, on a clairement démontré, et dans les autres pays qui ont une grande expérience, la Guinée, Libéria, Sierra Leone, que les malades pris en charge tôt arrivent à guérir.
Ça veut dire qu'il faut repérer tous ceux qui ont été en consultation à la clinique Pasteur?
Absolument. Tous qui sont en consultation à la clinique Pasteur, leur poser des questions, ce n'est pas les mettre en quarantaine, mais leur poser des investigations, évaluer le risque qu'ils ont pu prendre et mettre des systèmes de surveillance.
Jusqu'à combien de temps, par exemple, ceux qui ont été en consultation, il y a 2 jours, 3 jours ou 1 semaine?
Non, mais forcément, il faut remonter jusqu'au patient qui est décédé de Ebola, le patient suspect qui n'a pas eu la confirmation
depuis
biologique.
Depuis la date d'entrée du patient guinéen qui a transmis à l'infirmier.
Absolument.
D'accord. Voilà. On va y revenir. Monsieur Zeroué, vous étiez soulagé de voir votre famille qui a été mise en quarantaine, qui en est sortie indemne. Est-ce que ces nouveaux cas ne vous donnent pas encore, ne vous donnent pas ce regain de peur encore par rapport à ces nouveaux cas?
Merci. Et je dis bonsoir à tout le monde. Ce nouveau cas, vraiment... Excusez, je suis un peu arrumé.
Oui.
Ces nouveaux cas, vraiment, ça nous fait peur encore. Mm-hmm. Parce que nous, on était sous pression pendant 21 jours. Oui. Et il y a eu toutes sortes de pressions. D'ordre social, d'ordre financier, et puis même piscose.
Oui.
Parce que moi, je suis une personne extérieure de la famille. C'est la grande famille. Lorsque moi, je me suis marié, j'habite ailleurs. Je suis à 2 rues de ma famille. Donc, lorsque le problème est survenu, on m'a informé directement. Comme mon grand frère de l'air, lui, il est à Caille, dans la belle famille. Donc, lui, c'est lui qui a donné mes numéros. Et les gens de la santé m'ont appelé directement pour m'informer du cas. En ce moment, moi, j'étais déjà à l'école. Donc, j'ai demandé la permission pour revenir. Donc, dès lors, vraiment, nous, on a commencé l'inquiétude. Parce que quand on dit qu'un cas de malade est passé chez vous, pendant 2 heures de temps. Et peut-être qu'il y a eu des contacts. Parce qu'il y a eu des... c'est une grande famille.
Ça fait peur.
Ça fait peur. Mmh. Donc vraiment, nous, on a vécu ce père-là en tout genre et en tout ordre. Mmh. Donc ce nouveau cas, vraiment, ça va revenir avec un autre père. Mmh. Donc tout ce que moi j'ai à dire pour le moment à la population bamakoise, c'est de suivre les consignes données par l'autorité. C'est-à-dire l'hygiène, les contacts, et aussi faire beaucoup attention à chaque fois qu'on voit un nouveau cas.
D'accord.
Voilà.
Docteur Arwata, on va vous demander d'abord comment est-ce que vous avez informé le gouvernement par rapport à ces cas, ce cas, parce que le premier n'était pas encore révélé.
Voilà,
à ce que je chasse.
Le second cas, quand il est arrivé donc le samedi 8 novembre, il a été reçu immédiatement par nous-mêmes d'abord et par les services compétents, le service du professeur Sambasso. Sambasso, qui est la personne en charge d'Ebola au Mali. Ils sont immédiatement, le même jour, ils sont venus à Pasteur. Ils ont isolé le malade, ils ont interviewé le malade, ils ont fait les prélèvements et les résultats n'est sorti que mardi.
C'est vous qui avez donné l'information?
Absolument. On a immédiatement, parce que le monsieur qui a développé, le stagiaire, infirmier stagiaire, il était sur une liste de contacts des gens qui ont eu à manipuler le malade. Il faut savoir qu'Ebola ne se transmet pas par l'air. Ebola se transmet par des contacts physiques avec les malades. Il faut que les gens comprennent qu'on attrape Ebola par les liquides que sécrète le malade. Les vomis, le sang, les selles. Donc les personnes qui s'occupent des toilettes des malades. Ce n'est pas parce que tu as serré la main, ce n'est pas parce que tu es rentré dans la salle. Dès que tu serres la main, il faut se laver les mains parce que le virus est extrêmement fragile. Oui, le savon de Marseille tue le virus.
Oui.
Je parle sous le contrôle du virologue. D'accord. C'est pour ça qu'on demande de se laver les mains.
Oui. Voilà. On va y revenir. Docteur Arwata, l'opinion vous critique beaucoup aujourd'hui, surtout la clinique Pasteur, de n'avoir pas informé les autorités depuis le premier cas datant de plus de 3 semaines. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
C'est pour cela que je suis venu, pour vous dire que le premier cas guinéen qu'on a reçu, c'est le 25 octobre, samedi à 22h. Lundi matin, les autorités eux-mêmes viennent nous informer qu'il y a eu des informations suspectes. Donc peut-être qu'on a perdu un jour, dimanche, mais lundi matin déjà, la liste de tous les contacts du malade était établie.
Donc vous voulez dire que l'État était informé de ce cas?
L'État nous a informé lundi matin, après le décès du monsieur, qu'il y a eu des informations, qu'il vient d'avoir des informations comme quoi...
Qui venait d'où alors?
Qui venait de la Guinée, comme quoi il était suspect. C'est pour cela
donc
qu'on a établi...
c'est l'État qui vous a informé plutôt.
Que l'information, comme quoi il y a eu un cas Ebola à la frontière malio-guinéenne de ce monsieur, que dans sa famille il y a eu un cas Ebola.
Vous n'aviez rien détecté?
Nous, on n'a pas les moyens de détecter Ebola. Aucune clinique de la place n'a les moyens de détecter Ebola.
Alors,
on a
pourquoi,
des signes.
Vous me permettez de poser cette question. Pourquoi avoir accueilli alors un malade venant de la Guinée, sachant bien que cela pouvait engendrer des conséquences de ce genre? Vous avez songé à la réputation de votre clinique?
Nous, on est des médecins. On est les premières victimes. On est sur la première ligne. C'est-à-dire que ce sont nos vies qui sont en danger. C'est les médecins qui examinent les malades, qui sont d'abord les personnes les plus exposées. On veut vivre. Aucun médecin, aucun infirmier ne veut aller au suicide. Donc, on fait tout. D'abord, on soigne pas les gens selon leur origine ni selon leur provenance. On soigne les gens par l'urgence qui est présente. Peut-être que dimanche, on aurait dû prévenir que c'est un cas Ebola. Ça n'allait rien pas changer dans nos protocoles. Parce que les protocoles, on les applique, qui est Ebola ou pas, qui est Guinéen ou pas, ou quel que soit le malade. Nous avons des manières de procédure pour nous protéger avec tous les malades. En Espagne, qu'ils ont beaucoup plus de moyens, un infirmier s'est infecté avec un malade, juste en lavant ses gants.
C'est vrai. Donc, que le personnel sanitaire est exposé.
Voilà, on est les premières victimes et je ne comprends pas qu'on soit aussi aujourd'hui indexé et accusé de cela.
D'accord, on va observer quelques secondes de pause, nous revenons après. Ouais. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vous pouvez réagir aux informations données par Studio Tamani via Facebook et le compte Twitter. Vous êtes présentement à l'écoute du Grand Dialogue sur Ebola, deux nouveaux cas à Bamako. Nos invités sont Dr Arwata Ben Baba, président de la Polyclinique Pasteur, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Issa Zeroua, parent de personnes mises en quarantaine. Le deuxième volet de ce débat porte sur les risques de contamination. Mais avant, je voudrais demander à Dr Al-Mustapha Maïga, vous qui êtes virologue, dans deux cas pareils, qu'est-ce qu'il faudrait faire auparavant?
Qu'est-ce qu'il faut faire auparavant? Je pense qu'aujourd'hui, on est pris de court, en fait, par la nouvelle. Parce que la nouvelle, ça a coïncidé avec la sortie des malades qui étaient en quarantaine. Et en même temps, il y a un nouveau foyer qui émerge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la clinique devrait faire? Peut-être que aujourd'hui, la clinique, quand on avait établi la liste de contacts, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas des informations suffisantes, mais je pense que les personnes qui étaient sur la liste, on devrait réellement, avant que l'infirmier ne puisse développer, parce que c'est vrai que ça va arriver très tôt souvent chez certaines personnes, mais ça va progressivement. Les symptômes arrivent progressivement, la fièvre, ainsi de suite. Ce qu'on devrait faire, c'est que le suivi, peut-être le docteur Ben Barka va nous expliquer comment est-ce que le suivi a été fait, mais ce suivi, normalement, avant que le malade ne présente un état grave, il devrait, comme étant sur une liste, devrait avoir non seulement les contrôles réguliers et devrait être diagnostiqué le plus rapidement que possible pour pouvoir développer. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, comme les malades, on a eu un cas suspect d'Ebola, en ce moment, les dispositions devraient être renforcées au niveau de la clinique. C'est renforcé, c'est quoi? Parce que les mesures de protection individuelle qu'on propose en réalité ne sont pas efficaces pour protéger contre Ebola aujourd'hui. C'est clair, c'est connu. Parce que les gants, nos infirmiers souvent ne savent même pas comment enlever les gants correctement. Nos infirmiers ne savent même pas comment bien porter les mesures de protection et comment les enlever. Donc tout ceci, on devrait mettre l'accent là-dessus, faire de la formation, mettre vraiment l'accent sur les mesures de protection. Quand on avait dit que le malade décédé de la Guinée est suspect d'Ebola.
Alors, docteur Arwata Ben Baba, comment le suivi a été fait?
Écoutez, moi je pense qu'il y a une enquête d'abord épidémiologique interne. Quand des événements comme ça se produisent, les autorités compétentes font des enquêtes épidémiologiques pour savoir où est-ce qu'il y a eu défaillance. Nous avons des manières de procédure. L'infirmier qui a eu le virus était sur une liste de contacts qu'on connaissait. Il est le premier jour où il s'est présenté, parce qu'il n'était pas un infirmier embauché à la clinique. Il était un vacataire. C'est un infirmier stagiaire qui était chez lui. Et donc, quand il s'est présenté, me disant qu'il a une forte fièvre, et il a immédiatement saigné, on a le même jour, le samedi où il s'est présenté. Vous nous verrez, mais l'enquête le dira, pas un moment où ce monsieur soit venu deux jours avant qu'on lui dise non, retourne à la maison ou des choses comme ça. Le premier jour il est venu, son état s'est dégradé. Et on a immédiatement demandé. Donc ça, je pense que l'enquête, je ne veux pas présumer ce qui va se dire.
Est-ce qu'il a été en contact avec plusieurs personnes?
Non, depuis qu'il est venu avec les signes, et comme il était sur contact, il était plus suspect, il était probable. Comme je vous ai dit, il y a trois étapes. Il y a l'étape suspect, probable, confirmé.
Mais la liste de suspects que vous avez par rapport aux Guinéens, elles sont nombreuses, ces personnes
c'est
qui ont été en
les
contact.
Guinéens,
premier décédé.
Tous les médecins, tous les infirmiers, les aides-soignants, même les laveurs de carreaux de sa chambre étaient sur une liste. Et on attendait.
C'est une liste de combien de personnes, si ce n'est
pas
indiscret?
Je n'ai pas les chiffres en tête. Comme je vous avais dit tout à l'heure, que moi, je suis le président, mais je ne gère pas en interne. L'actuel directeur général est en quarantaine à Pasteur.
J'imagine.
Et donc, je suis le président et je gère à distance la clinique. D'accord. Donc, les vrais responsables qui sont en interne ne peuvent pas sortir pour répondre aux questions, je suis venu en fait à leur place. Mmh. Mais je sais que la liste est remise à l'enquêteur au ministère de la Santé, qui est en train de faire ses enquêtes internes, qui va nous dire où est-ce qu'il y a eu exactement défaillance.
D'accord. Dans ce cas précis, docteur Maïga, la crainte de contamination, elle est grande ou pas?
Alors, aujourd'hui, à l'état actuel, on n'a pas beaucoup d'informations. On essaye de recouper les informations de part et d'autre. Mais nous sommes au laboratoire, donc souvent, c'est le temps qu'on est en train de collecter les informations de part et d'autre avec nos collègues de la clinique Pasteur et puis le professeur Sambasso pour évaluer avec les experts de l'OMS le risque de propagation de la maladie. S'il s'avère que le malade, l'infirmier qui est décédé à la maison, à la clinique Pasteur, qui est décédé à la clinique Pasteur, s'il s'avère qu'il est resté pendant combien de temps à la maison avant de venir à la clinique, ça aussi c'est extrêmement important à le vérifier. Donc le risque peut être important. S'il s'avère aussi que le circuit du malade suspect d'Ebola, qui est apparemment, probablement, on aurait dû entendre qu'il est retourné, on l'a ramené le corps en Guinée pour faire les funérailles. Si on arrive à bien tracer le circuit de ce corps, on pourrait limiter la propagation et ça peut être ce qu'on appelle une petite épidémie encore qu'on peut contrôler. Donc je rappelle aujourd'hui, pour ne pas paniquer la population, que le Nigeria a eu plusieurs, il y a eu 19 qui ont été, et l'exemple du Nigeria aujourd'hui est en train de donner des leçons à la communauté internationale pour voir comment est-ce qu'on arrive à gérer des petites épidémies d'Ebola. Je rappelle que Lagos, où ça s'est apparu, c'est 18 millions de personnes, c'est plus que la population du Mali, et donc ils ont réussi vraiment à maîtriser cela, et on est capable aujourd'hui de pouvoir maîtriser ce problème-là.
Alors, quels sont les risques dans le contact avec le défunt, surtout que le corps a été autorisé à être ramené en Guinée-Conakry?
Le risque, c'est ce qu'on a dit, le docteur Ben Barka l'a dit tout de suite, les risques avec le décès, le corps est très contagieux. Toutes les liquides qui sortent du corps sont contagieuses. Vous savez que les gens, on a des coutumes de telle sorte que quand les gens meurent, on a envie de toucher le malade, on a envie de faire ceci, de faire cela, tout ceci. Et au moment, les personnes qui sont en charge pour le nettoyage du corps, ils sont extrêmement exposés. Voilà. Donc, au niveau...
Est-ce qu'il faudrait rechercher toutes ces personnes-là?
Absolument, absolument, c'est nécessaire. On ne peut pas exclure ces personnes-là. Si on exclut ces personnes, on va exclure les personnes susceptibles de développer la maladie dans 2 à 3 semaines.
Oui. Alors, selon nos sources, docteur Alouata, vous avez autorisé à ce que le défunt soit ramené, le corps du défunt soit ramené en Guinée-Conakry. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces affirmations?
D'abord, je tiens à préciser que la clinique Pasteur n'a jamais envoyé une ambulance chercher un malade en Guinée.
Non, la clinique Pasteur n'a jamais envoyé une ambulance à ce qu'on amène le corps en Guinée. Le corps en Guinée,
On ne nous a jamais dit qu'on partait avec le corps en Guinée. Quand le patient décède, on leur donne un certificat de décès et normalement, on le dirige à la morgue du quartier où il réside. C'est là où l'enquête va nous dire qu'est-ce qui s'est passé au moment où le corps devait être déposé à la morgue. Au lieu d'être déposé à la morgue, la famille a préféré aller enterrer le corps à 90 ou à 100 km de Bamako.
Parce qu'il faut pas... Ils ne sont plus allés en Guinée avec le corps?
Si, ils ont enterré leur corps. Selon mes informations, je n'ai aucune information précise là-dessus. Donc ça, je pense qu'on saura avec l'enquête interne qui est en train de se faire. Si le corps est parti en Guinée sans être manipulé au Mali, ça aurait plutôt été mieux pour le Mali. S'il a été manipulé à Bamako avant d'être parti, tout ça il faut préciser et reporter tous les contacts. À ma connaissance, à l'heure où je vous parle, le ministère est en train de faire un travail gigantesque pour répertorier toutes les personnes qui ont été en contact.
L'enquête a déjà commencé?
Absolument.
Depuis hier soir.
Parce que c'est hier soir qu'on a eu les résultats du stagiaire positif, mais les enquêtes ont commencé depuis la mort du vieux, quand la Direction nationale de la santé est venue nous aviser qu'il y avait un cas suspect.
L'État n'a pas communiqué sur ça. Ils ne sont pas là pour répondre. D'accord.
À ma connaissance et selon les informations que j'ai, encore une fois, ce n'est pas moi le directeur général, ce n'est pas moi le directeur médical, d'autres personnes
mais
internes.
Vous êtes président.
Je suis président à ce titre que je viens répondre. Voilà.
Alors, d'accord, au niveau de la famille du défunt, il peut y avoir des sujets à risque aussi, hein, puisque l'infirmier a manifesté la maladie chez lui, apparemment, avant qu'il ne vienne à la clinique. Docteur Maïga, je vous pose la question.
Oui, c'est ça les risques. C'est la famille, quand il y a un malade Ebola, les premières personnes qui sont vraiment à risque, c'est la famille et le personnel soignant. Donc c'est vraiment ces deux personnes qu'il faut tout de suite, l'a dit, le docteur Ben Baka l'a dit, c'est pas en serrant la main de quelqu'un, on peut avoir le virus, mais c'est pas le moyen le plus rapide d'avoir. C'est la personne qui s'occupe du malade. Là, quand la personne s'occupe du malade, il va toucher au vomi, il va toucher du sang, il va toucher des selles ou autre chose. Il ne va pas bien se laver les mains et la main va toucher le visage. Le visage, c'est les portes d'entrée, c'est les yeux, les narines, la bouche. Et on n'arrive pas à calculer combien de fois la main touche le visage. C'est des gestes naturels qu'on fait tous les jours. Et c'est pour cela, souvent, même quand les personnels soignants, ils ont des gants, ils arrivent souvent à... Imagine-toi, l'œil te gratte tout de suite, ils font comme ça.
Ouais.
Et c'est ce qui fait la porte d'entrée. Donc aujourd'hui, la clé, c'est les contacts, absolument. Et il faut vraiment... Et la population doit aujourd'hui collaborer.
Ouais.
Toute la population doit collaborer. C'est vrai, il nous dira que la quarantaine, elle est contraignante, elle est stressante, et ça, ça. Mais c'est nécessaire aujourd'hui.
D'accord. Monsieur Zuroua, vous avez vécu... en quelque sorte, parce que votre famille était en quarantaine. Est-ce que vous avez eu cette impression de stigmatisation de la population envers vous? Parce que c'est un autre problème de cette question d'Ebola.
Oui, bien sûr. Et la famille voisinage, vraiment, il y avait des familles solidaires avec nous. Parce que moi, j'étais le seul lien entre ma famille et l'autorité. Donc, il y avait des gens qui venaient, que paraît-il que c'est chez vous qu'on a vu le premier cas d'Ebola, c'est la famille d'Ebola. Il y avait aussi des voisinages qui refusaient même de me saluer. Étant, ils savaient aussi que moi, je n'habite même pas dans la famille maintenant, mais du fait que moi, je fais partie de la famille, j'étais déjà stigmatisé. Et ça, ça me faisait vraiment mal. Très, très mal. Ça, c'est un. De deux, l'inrespect ou, je ne sais pas, c'est la direction régionale de la santé qui s'occupait de faire nourrir les personnes qui étaient sous quarantaine, ma famille. Donc il y avait un gars qui amenait leur nourriture. Lorsqu'il venait avec sa voiture, il sortait, la nourriture était dans les sachets bleus qu'on vendait à 100 francs, 100 francs, 50 francs. Il les posait entre notre poubelle et l'arbre. Et quand je m'approche seulement, il s'enfuit pour rentrer dans sa voiture.
Oui.
Et le voisin était vraiment touché.
Oui.
Donc, je suis allé voir la famille fondatrice de Bagadadi, la famille Touré, parce que le jour où on a mis ma famille en quarantaine, on a amené ce monsieur pour vraiment parler avec moi, de me faire comprendre. Je lui ai dit que ne vous inquiétez pas, chez nous, il y a le respect. Lorsque je donne des trucs, les gens vont m'ouvrir, Inch'Allah. Donc, dès que ça fait mal aussi, je dois aller le revoir.
Ouais.
Donc, je suis parti me plaindre auprès de lui. Je lui ai dit, dès maintenant, il faut demander à l'autorité d'arrêter de faire nourrir ma famille. Moi-même, je veux prendre ça en charge. J'ai ma femme ailleurs, je vais le donner à préparer, on va l'amener. Dès le lendemain matin, directement, il a consulté le compole du 3e arrondissement, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont reçu le message. Donc, on m'a appelé par téléphone, en me disant que là aussi, c'est un cas qui est un peu dangereux, il y a trop de risques. Parce que lorsque ma femme va préparer, on va amener à manger. Et les tasses et les assiettes qu'on va faire sortir maintenant, il faut bien les nettoyer avec les eaux javelées.
Les désinfecter.
Voilà, désinfecter. Là, ce n'est pas facile.
Ouais.
Donc, il faut faire des propositions. Bon, on a échangé à peu près au bout de 25 minutes, jusqu'à ce qu'on est parvenu, au moins à ce qu'ils vont amener un sac de riz de 100 kilos, un sac de mil de 50 kilos, plus le prix du condiment de 15 jours. Donc, en ce moment, on va amener ça à la famille. Et chaque matin, ma femme va au marché pour faire les trucs et on va les faire parvenir. Ils vont préparer à l'intérieur et manger là-bas aussi.
D'accord.
Donc ça, vraiment, ce n'était pas du tout facile.
Ça, c'est sûr. Sur ce, on va observer.
Je ne communiquais seulement que par téléphone.
Oui, ça, c'est sûr. Et c'est pénible. On va observer quelques secondes de pause. Nous revenons après.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Grand Dialogue ouvre le débat sur les nouveaux cas d'Ebola à Bamako, les risques de contamination et les mesures prises. Nous en parlons avec Dr Arwata Ben Baba, président de la Polyclinique Pasteur, Dr Al-Mustapha Maïga, virologue, Issa Ziroua, parent de personnes mises en quarantaine. La prévention est l'un des piliers sur lequel s'appuient les autorités pour lutter contre Ebola. C'est la peur qui s'installe présentement chez tous les Maliens. Nous allons voir maintenant les mesures prises et celles envisagées. Alors, Dr Arwata, je me tourne encore une fois vers vous. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la clinique Pasteur? On a appris que la polyclinique est en quarantaine.
Tout à fait. Donc depuis hier soir, quand la confirmation du prélèvement a été faite, le gouvernement a décidé, avec l'accord de la direction de la clinique, de mettre toute la clinique en quarantaine. Mmh. C'est-à-dire que tous les accès de la clinique sont fermés. Nous ne recevons plus de consultations ni d'hospitalisation, aucune activité médicale. Les malades qui sont hospitalisés sont sous quarantaine. Nous en avons 35 aujourd'hui hospitalisés, dont 22 de la MINUSMA. Et donc 35 malades hospitalisés et 13 personnes de personnel médical et administratif. Là, les démarches sont en train d'être faites pour que le personnel administratif, qu'on allège la quarantaine et qu'on surveille le personnel administratif et infirmier à domicile.
Voilà. On se demande aussi quel est le sort qui sera réservé aux malades qui étaient déjà hospitalisés là-bas. Ils sont en quarantaine aussi? Comment ça se passe?
Voilà, c'était un très gros problème. Toute la journée d'aujourd'hui, nous avons géré la crise parce qu'ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire. Les infirmiers, on ne pouvait plus avoir accès à la clinique. Donc, certains infirmiers ne pouvaient pas venir travailler. Et c'est pour ça qu'on avait fait un appel à l'État, pour que l'État nous aide à gérer cette phase très, très critique de nourriture de nos malades et des soins. Parce que même des infirmiers ont peur aujourd'hui d'aller exercer leur métier.
Justement, est-ce qu'il y a une collaboration entre vous, les cliniques privées et l'État dans le cadre de la prise en charge des cas d'Ebola?
Pour l'instant, c'est l'OMS, le CDC Atlanta, MSF et l'État qui coordonnent tout ça. Cette crise est de la gestion exclusive de l'État. C'est l'État qui, aujourd'hui, la clinique Pasteur est sous la coupe de l'État. Nous avons un problème parce que, à cause de la psychose et la peur, le personnel médical même a peur. Parce que nous sommes les victimes de cette affaire.
Ouais.
Nous sommes les premières personnes qui prennent les risques, même avant les familles. Donc, je lance un appel à l'État pour nous assister, s'ils peuvent nous mettre à disposition des personnes formées pour rentrer dans l'hôpital et soigner les malades qui n'ont pas Ebola et qui sont en quarantaine. Mm-hmm. Parce qu'il y a une urgence sur ce point.
Alors, on se demande...
Et la désinfection a commencé depuis hier soir, depuis le traitement du corps, avec les services du professeur Sambasso. Ça a été fait dans les règles de l'art. La clinique a été entièrement désinfectée. Et je pense qu'après la quarantaine de 21 jours, la clinique va repartir sur des meilleurs services.
Vous êtes optimiste?
Absolument. Parce que c'est une leçon pour tout le monde. Mais je pense qu'à la rentrée, ça ne peut être que nous renforcer dans nos précautions et dans nos...
D'accord. Docteur Maïga Al-Mustapha, virologue, qu'est-ce qui peut se passer dans de tels cas dans les jours à venir?
Qu'est-ce qui va se passer? Tout va dépendre de la rapidité par laquelle les autorités vont pouvoir gérer cette crise. Parce que il y a des malades qui sont hospitalisés. Ces malades hospitalisés ne le sont pas pour Ebola. Ils le sont pour d'autres pathologies. Aujourd'hui, on doit pouvoir évaluer le risque pour chaque malade, pour chaque personnel qui est aujourd'hui en quarantaine au niveau de la clinique. Et sur l'évaluation de risque, il y a des experts de l'OMS qui savent faire l'évaluation de risque pour voir jusqu'à quel niveau vous êtes à risque de pouvoir développer la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on trouve des moyens très rapides de pouvoir réagir au niveau de la clinique et de pouvoir contenir, ou si on ne peut pas contenir les gens au niveau de la clinique, les personnes qui doivent être isolées, On sait qu'il y a des salles d'isolement, des tentes UNICEF qui ont été installées hors de la ville. Ces personnes peuvent être isolées dans ces endroits pour pouvoir décongestionner la situation parce que la population est paniquée. Mm-hmm. Le fait que c'est la clinique Pasteur, c'est à l'intérieur de Bamako, ça pose des problèmes.
Ouais.
Donc, je pense que l'urgence, c'est vraiment la gestion rapide des contacts et des personnes vraiment qui doivent être mises en quarantaine.
Ouais.
Et je me répète encore, c'est quand même, il faut absolument une collaboration avec les structures publiques pour pouvoir gérer ces malades qui ne sont pas à très grand risque. Si on ne peut pas les gérer à l'intérieur de la clinique parce qu'il n'y a pas de personnel de santé, mm-hmm. qu'on puisse les mettre dans des structures publiques pour pouvoir gérer ces malades-là parce qu'ils ne peuvent pas rester aussi pour en mourir.
Ouais.
Ce n'est pas normal.
Monsieur Zeroua, votre famille a vécu la quarantaine. Dites-nous comment ça s'est passé.
Bon, quand on me demande d'expliquer ça, c'est pas facile parce que moi, je n'étais pas présent dans la famille même. Au sein
mais la famille est sortie de la quarantaine maintenant. On ne vous a pas un peu expliqué
voilà,
comment ça s'est
passé.
Voilà,
j'étais avec eux. C'était la fête. C'était la fête.
Mm-hmm.
Donc, vraiment, c'était des retrouvailles et puis des accolades partout, partout.
Mm-hmm.
Donc, vraiment, on est content, on est ravis, mais on ne le souhaite pas à ce qu'un autre cas arrive dans d'autres familles. Vraiment, ce n'est pas notre souhait.
Mm-hmm.
Et on est toujours inquiet. Donc, la famille a vécu leur observation de quarantaine vraiment très, très difficilement.
Mm-hmm.
Parce que dans la famille, il n'y a que deux salariés, moi et mon grand frère, et les autres sont des commerçants
mm-hmm.
et des ouvriers. Donc, quand tu vas leur demander de rester à la maison, donc vous voyez ce que ça fait.
Mm-hmm.
Les affaires vont s'arrêter, l'économie va commencer à s'épuiser. Vraiment, ce n'est pas du tout facile.
Hein? Mm-hmm.
De deux, dans la famille, à peu près, là-bas, il y a à peu près 28 membres, 28 personnes. Dont 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, il y a 9 qui fréquentent les écoles. Donc on les a empêchés aussi de fréquenter. Il n'y a qu'une seule fille qui est au niveau du second cycle. Les autres sont le maternel et le premier cycle. Donc on les a empêchés même de composer. On vient de faire leur composition mensuelle. Les enfants n'ont pas participé. Donc l'UNICEF, il y a un agent de l'UNICEF qui m'a appelé. Et on est en contact. Mais réellement, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent pour aider ses enfants. Ça, c'est deux. Et troisièmement aussi, il y a des rumeurs partout. Les gens disaient que nous, on était en combine avec le gouvernement pour pouvoir déclarer ces cas. Et on a versé des millions et des milliards et l'État nous a donné notre pourcentage.
Ouais.
Il y a eu des cas, j'ai un ami qui m'a même appelé pour me dire que, à partir de votre famille a reçu 3 ou 2 millions comme ça.
Mm-hmm.
Vous voyez, alors que nous, on n'a rien, absolument rien reçu de l'État, à part le prix du cognement de 15 jours
mm-hmm.
et un sac de riz de 100 kilos et 50 kilos de mille.
Dans ce cas, est-ce que la réinsertion a été facile après la quarantaine?
Bon, alhamdoulilah, maintenant ça va, ça va, mm-hmm. ça va beaucoup même.
D'accord.
Oui, oui.
Alors, docteur Arwata, est-ce que la quarantaine concerne seulement la polyclinique ou bien il y a eu la quarantaine autre part?
La quarantaine est gérée par l'État.
Mm-hmm.
L'État, comme ils ont fait dans les familles, toutes les personnes à haut risque, parce que c'est par catégorie, toutes les personnes à haut risque,
mm-hmm.
ils ont des critères d'évaluation, seront en quarantaine complète, mm-hmm. à domicile,
mm-hmm.
comme chez eux. Ceux qui sont à l'hôpital, à haut risque, seront en quarantaine à l'hôpital. Il y a des quarantaines à soulager un peu, qu'on peut laisser sortir un peu, s'ils ne sont pas à haut risque.
Mm-hmm.
Par exemple, si vous êtes passé par les couloirs de la clinique, vous n'avez jamais vu les patients, vous n'avez pas eu de contact, on se dit, surveillez-vous quand même, température matin et soir pendant 21 jours.
Mm-hmm.
La moindre fièvre, il faut se présenter à la clinique.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
La quarantaine va se vivre comme ça.
Alors, docteur Maïga, le cas à Bamako, c'est vrai que c'est la capitale, mais est-ce que tout doit être focalisé aujourd'hui sur Bamako? Devrait-on pas songer aux régions un peu?
Oui, vous savez, ça rappelle un peu tout ce qui se passe. Nos politiques, l'État, on fait beaucoup de réunions, on fait beaucoup de trucs, mais Ebola n'attend pas en réalité.
Ouais.
Ebola n'est pas politique.
Ouais.
Ebola, c'est de l'action. Ebola, c'est il faut mettre des experts pour prendre des mesures draconiennes pour pouvoir contrôler, sinon après, c'est le désastre.
Mmh.
Aujourd'hui, je sais, au début, quand il y avait eu des problèmes,
mmh.
il y avait des cordons sanitaires qui ont été mis en place au niveau des frontières.
Mmh.
Malheureusement, on sait que les frontières sont poreuses. On peut prendre une moto et puis dévier là où les policiers
sont. Il paraît que le dispositif est faible même. L'opinion critique beaucoup ça.
Voilà. Donc, bon, ça, c'est pas moi qui le dis, mais de toute façon... Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kaï devrait être une leçon pour tout le monde. Ça peut se passer ailleurs. Ça peut se passer dans d'autres régions. Ça peut se faire à Bamako ou, je ne sais pas, vers Kaï encore. Ça peut se faire vers Ségou. Ça peut se faire partout. Parce que c'est qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à se mettre d'accord. Au niveau aux États-Unis, on dit tous les gens qui reviennent des pays, il faut les mettre en quarantaine pour 21 jours. Mm-hmm. Ce n'est pas scientifiquement démontré, on ne peut pas les mettre. Ces personnes-là, c'est une moyenne, ces 21 jours-là. Il y a des gens qui vont le développer plus tôt, il y a des gens qui vont le développer plus tard. Et donc, c'est très, très difficile. Imaginez un patient qui vient d'une zone d'endémie, qui a envie de partir à Ségou ou à Gao pour voir ses parents. Mais pendant 21 jours, tu peux faire toute l'Afrique de l'Ouest, en réalité, si tu as envie de le faire. Et donc, on n'est pas vraiment à... Il faut qu'il y ait des mesures claires qui ont été prises, qui doivent être prises quand même par les autorités. Et l'exemple de Kaï devrait nous servir aujourd'hui.
Monsieur Zeroua, vous êtes citoyen comme tous nous autres. Hein. Quelles sont les dispositions que l'État doit prendre aujourd'hui face à Ebola?
Je crois que face à l'Ebola, l'État doit beaucoup faire. Parce que la sensibilisation, sans l'action concrète, vraiment, ça ne vaut rien. Sinon, on a vu des émissions à la télé. Nous, les enseignants, nous a donné des leçons modèles à exercer dans les classes, à l'école. Et les radios ne parlent que ça. Dans les médias, c'est tout à fait l'Ebola. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Mm-hmm. Par exemple, dans mon cas, chez nous, à la famille, il y avait des policiers qui rôdaient la nuit, mais la journée, il n'y avait rien. Tandis que les autres disaient que non, il y avait des militaires partout, il y avait des policiers, c'est pas vrai. Mm-hmm. Le commissaire général du 3e arrondissement m'a demandé, est-ce qu'il y a un cas de menace pour qu'on vous mette en sécurité avec les policiers? Je les ai dit que non, heureusement ça va. Mm-hmm. Mais la manière dont même les choses se sont déroulées, c'était pas vraiment adéquat. C'était pas du tout bon. Mm.
Voilà. Docteur Arwata, selon vous, est-ce que la solution peut passer par la fermeture des frontières vu qu'il y a tous ces problèmes?
Absolument pas. Fermer les frontières, cela veut dire que c'est d'avoir des Ebola clandestins. Donc c'est la pire des choses. Je pense qu'il vaut mieux contrôler ces frontières, mais pas les fermer. Si vous les fermez, ils passeront pas. On n'a même pas de frontières, il y a des kilomètres de frontières, personne ne peut les fermer. Mmh. Donc dire qu'on les ferme, ça va protéger, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut mettre des cordons sanitaires et expliquer aux gens que quand ils ont de la fièvre, ils contaminent. Ebola, on contamine Ebola quand on a les signes, pas avant. Mmh. C'est quand on a commencé à faire de la fièvre qu'on contamine. Donc il faut absolument contrôler la température des gens. À partir de 38,4, on bloque les personnes, on fait des investigations pour savoir. Le problème, c'est avant l'apparition des signes. Quelqu'un peut rentrer, température normale, et développer la température 2 semaines après, comme il a dit le docteur Mega. C'est très difficile. C'est une lutte à plusieurs échelles. Il faut l'échelle épidémiologique pour contrôler, il y a l'échelle, les travaux en vaccination qui sont en cours, il y a les traitements qui sont en cours. Je pense que dans 2-3 mois, beaucoup de nouvelles intéressantes vont tomber en matière d'Ebola.
Docteur Maïga, on peut espérer sur le vaccin en décembre?
Alors, il y a beaucoup de vaccins qui sont aujourd'hui en essai. Mm-hmm. Et il y a décembre, je ne pourrais pas dire que décembre c'est trop tôt. Décembre, mm-hmm. c'est vraiment à la porte. Mm-hmm. Je ne vois pas dans le milieu scientifique un vaccin qui sera prêt d'ici décembre. Ce sera mm-hmm. vraiment très, très difficile. Mais ce n'est pas à exclure. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut dire, je vais juste réagir par rapport à la fermeture des frontières. Je viens d'arriver de Lomé ce week-end. Et quand on a fait une escale en Côte d'Ivoire, il y a un formulaire qu'on distribue à tous les gens qui doivent descendre en Côte d'Ivoire. Mmh. On vous pose la question, est-ce que vous avez été hospitalisé dans les 21 jours qui suivent? Est-ce que vous avez été à l'hôpital? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Est-ce que vous avez vu un malade, un docteur? Pourquoi vous avez vu le docteur? Est-ce que vous avez fait de la fièvre?
Une enquête minutieuse.
Voilà, il n'y a pas ça à Bamako. À Bamako, on vient, tu descends et puis c'est fini. Ouais. C'est comme c'est une situation normale.
Il va falloir mettre du sérieux.
Voilà.
Beaucoup de sérieux même. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission était consacrée au virus Ebola avec la découverte de nouveaux cas à Bamako. Dans ce numéro, nous sommes revenus sur les faits, comme ils se sont déroulés. Nous avons évoqué les risques de nouvelles contaminations et les mesures prises par l'État. Docteur Arwata Ben Baba, président de la Polyclinique Pasteur, Docteur Al-Mustapha Maïga, virologue, et Issa Zeroua, parent de personnes mises en quarantaine à Bagadadi, étaient nos invités. Sira Bachile a animé ce débat pour vous. Ousmane Diadié Touré l'a réalisé et la technique était assurée par Nouhoum Djiré. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.